6 départs de feu recensés, un bus totalement calciné près du centre culturel à Boulary. La soirée d'hier et la nuit ont été agitées au Mont d'Or. Nina Juillet, le maire de la commune, demande le renforcement immédiat des forces de sécurité. Christopher Gigès, le nouveau vice-président du 19e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Renforcer l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie et faire redémarrer l'économie sont les priorités du nouvel exécutif. La Calédonienne d'Imbéa Mall au parc Fayard, plus de 800 participantes étaient réunies à D'Imbéa pour ce rendez-vous au féminin. Une partie de la recette sera reversée à l'association Les Petits Pansements du Cœur. Un détenu en toute liberté ce week-end et en toute légalité, condamné à 8 ans de prison pour avoir géré les réseaux de cocaïne et d'héroïne, il passe le week-end chez sa sœur à Mulhouse. Plus de 2 mois après la mort de la jeune Liana, l'affaire continue d'ébranler les systèmes policiers et judiciaires. Une lettre du ministre de la Justice fait état de profonds dysfonctionnements. Le sport, le cyclisme et le Tour de France dames. Demi Vollering a frappé un grand coup en s'emparant du maillot jaune lors de l'avant-dernière étape. Et puis la sélection masculine de volleyball a validé sa place aux Jeux du Pacifique. Les Calédoniens sont imposés sur Wallis et Futuna sur le score de 3-7-2 en demi-finale des Océania à Guam. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Beaucoup, beaucoup d'agitation hier soir et la nuit dernière donc au Mont d'Or. Plusieurs faits de violence et de délinquance ont été signalés. Plusieurs départs de feu se sont également produits. Et un bus, je vous le disais, a été totalement incendié tout près du centre culturel de la commune à Boulary. Écoutez Nina Juillet, le maire du Mont d'Or.
Une nuit bien mouvementée effectivement au Mont d'Or avec pas moins de 6 départs de feu. Des poubelles, des feux de bord de route, des déchets verts, et puis l'incendie d'un bus, malheureusement. Le bus a entièrement cramé au complexe sportif de Boulary. Il semblerait que ce soit un acte de délinquance malveillant. Et donc les gendarmes et la police municipale ont couru toute la nuit. On est bien à la veille de vacances, on avait bien prévenu de cette situation. Je vais écrire dès ce matin un courrier au commissaire, je l'avais déjà alerté, j'avais même rendu public mon désaccord sur le fait de supprimer des forces de l'ordre à la veille des vacances. Donc là, je vais lui réécrire un courrier, lui demander de réorganiser les forces et surtout de renforcer la gendarmerie sur la commune pendant cette période de vacances. Le commissariat de police a été privé d'électricité pendant une bonne partie de la nuit. Et puis les terrains de tennis ont été endommagés. D'ailleurs, je préviens les utilisateurs du site aujourd'hui de faire très attention parce qu'il y a des compétitions. Donc voilà, c'est encore une fois des dépôts de plaintes, c'est encore une fois la population qui trinque.
Et je vous rappelle qu'hier, le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, s'était exprimé sur la récurrence, la recrudescence des actes de violence au Mont d'Or et sur la levée du verrou nord de Tabor. Il a indiqué avoir écrit au ministre de l'Intérieur. Il a officiellement demandé à Laurent Nunez de revenir sans délai sur le retrait des escadrons de gendarmerie mobile déployés en Nouvelle-Calédonie. On retrouve à ce sujet Nina Juillet.
J'ai alerté et le commissaire et le général et le député bien sûr sur cette situation il y a quelques jours parce que je rappelle qu'on a eu 2 voitures brûlées à l'école Adolphe Boutan, on a eu encore 1 voiture sur Yahweh la semaine dernière, on a eu 1 voiture au Vallon d'Or, 1 autre à la Coulée, enfin on a eu beaucoup de voitures incendiées ces derniers jours. J'ai vu le commissaire hier matin qui m'a dit qu'il était prêt à repenser le modèle des forces de l'ordre là sur la commune. Cette délinquance qui nous pourrit la vie ne cesse de continuer. Parce qu'on n'a pas été entendu par l'État quand on a prévenu qu'à la veille des vacances, c'était toujours très compliqué. Donc j'espère là que l'État va nous redonner des forces de l'ordre. Et puis j'espère aussi, parce que c'est sûr qu'on va l'attraper, le petit délinquant qui a fait ça, que la réponse judiciaire, elle sera ferme et rapide.
Et j'ajoute que Nicolas Metzdorf, dans son courrier, a également demandé à ce que des gendarmes soient affectés en brigade. Le député de la première circonscription qui ajoutait qu'il portait le projet de passer le Grand Nouméa en zone police nationale. La priorité absolue, c'est de renforcer l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie et de faire redémarrer l'économie calédonienne, déclare Christopher Gigès. Le nouveau vice-président du gouvernement était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Jean-François Bodin.
Christopher Gigès a notamment été interrogé sur l'attribution des secteurs au sein du gouvernement et d'abord sur son élection il y a une semaine au poste de vice-président et il balaye la critique selon laquelle ce poste aurait dû revenir à un indépendantiste.
La tradition au gouvernement, c'est un président et un vice-président vice-président, pas de la même famille politique. Je crois pas que Mila Kulotukumuli soit loyaliste. Enfin, en tout cas, il se l'est pas présenté comme tel. Et donc, du coup, on a essayé de montrer sur une majorité d'actions et des secteurs qui sont aujourd'hui les priorités du gouvernement, qui sont répartis à la fois sur le président du gouvernement, sur la santé, la protection sociale, le transport et le rétablissement des comptes sociaux, mais également la relance économique que j'ai la responsabilité de porter.
Un gouvernement composé au terme du pacte de gouvernance signé entre les loyalistes, le Rassemblement et l'Éveil océanien. L'objectif, souligne Christopher Gigès, c'est de faire redémarrer la Nouvelle-Calédonie, de créer de la richesse et de montrer de la visibilité et de la stabilité. Et il y a un accord des parties signataires de pacte du gouvernement, malgré leurs différences.
On n'est pas dans une logique de concession, on est dans une logique d'objectif, c'est-à-dire que vraiment, on a la nécessité de reconstruction des comptes publics et de l'économie calédonienne. Et je crois qu'on partage tous, notamment avec l'Éveil océanien, le fait qu'on doit faire des économies, c'est quelque chose qu'on partageait, qu'on doit redonner plus de simplification au système économique, qu'on doit faire davantage confiance aux entreprises. Et là-dessus, on s'est retrouvés. C'est-à-dire qu'il y a des propos de campagne, on est dans une campagne électorale. Aujourd'hui, la campagne électorale, elle est derrière nous. Et au final, quand on a fait ces discussions, il y avait des choses sur lesquelles on n'était pas si éloignés. Je prends un exemple qui est la réforme des retraites, qui est un sujet qui est compliqué, qui est un sujet qui est douloureux. On avait travaillé avant les élections avec M. Tokoumouli pour déposer des textes en commun, pour porter des choses en commun sur ces sujets-là. Sur la partie économique et sur le fait qu'aujourd'hui, l'imposition des Calédoniens est trop forte, la pression fiscale est trop forte, les contraintes administratives sont trop fortes, on a trouvé aussi des consensus pour arriver là-dessus.
De toute façon, personne n'a de majorité tout seul, rappelle le vice-président du gouvernement qui affirme que la volonté, c'est de s'entendre sur les réformes dont les Calédoniens ont besoin. Concernant la répartition des secteurs entre les 11 membres, il rappelle qu'elle s'est faite à l'unanimité. Et si les parties du pacte de gouvernance ont conservé les secteurs essentiels liés à l'économie ou au redressement, il affirme qu'il n'y a pas de discrimination envers les indépendantistes.
Que la majorité qui est en place et les principaux secteurs pour mener la politique qui a été définie dans le cadre de l'accord de gouvernance qui a été fait avec l'Éveil océanien, c'est quelque chose qui est traditionnel. Quand on a pris le gouvernement avec Thierry Santin en 2019, on avait les principaux secteurs. Quand Louis Mapou a pris la présidence du gouvernement, ils avaient les principaux secteurs. Et donc, c'est pas une volonté d'exclure les autres. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont importants. Enfin, le travail, l'emploi et la formation professionnelle qui est chez Gilbert Huyénon, dans le contexte actuel, on peut pas dire que le travail et l'emploi sont des secteurs de seconde zone. La question de la culture, de la pêche, tous ces secteurs-là ne sont pas des secteurs de seconde zone non plus. Il y a beaucoup de travail là-dessus, mais on a des choses à porter dans le cadre de cet accord de majorité qui doivent être portées à travers des secteurs.
Au sein du gouvernement, Christopher Gigès a en charge l'économie, la fiscalité, les télécommunications, les questions douanières, le commerce extérieur, l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie et la souveraineté alimentaire. Dans ces secteurs, sa priorité absolue, c'est le redémarrage de l'économie calédonienne.
Je veux vraiment qu'on soit en capacité de construire un nouveau modèle économique pour la Nouvelle-Calédonie qui est fondé sur à la fois de l'attractivité, montrer que la Nouvelle-Calédonie a des atouts pour faire venir de la population sur le territoire, de la simplification, qu'on soit sur un système à la fois administratif et fiscal qui arrête de faire du copier-coller de la métropole. Enfin, personne ne peut m'accuser de ne pas être attaché à la République, mais la Nouvelle-Calédonie ne doit plus faire du copier-coller du système métropolitain, un qui ne marche pas dans un territoire de plusieurs millions d'habitants et qui marche encore moins sur une petite île au milieu du Pacifique avec 270 000 habitants. Il faut qu'on soit simple, il faut qu'on soit attractif et il faut qu'on montre qu'on est en capacité de faire gagner plus aux Calédoniens et que le travail paye plus.
Et parmi les réformes qui seront engagées, Christopher Gigès cite notamment la suppression des droits de succession, mais il souligne qu'il y a un accord sur les retraites, le RUAM et le rétablissement des comptes. Il a aussi été interrogé sur les propos du président du gouvernement, Mila Kulotukumuli, qui déclare que la Calédonie est en cessation de paiement.
Il a raison dans ce qu'il annonce, mais on est en cessation de paiement depuis 2 ans. J'ai été en charge du budget. Le travail du membre du gouvernement en charge du budget, c'est de pouvoir assurer les dépenses de la collectivité quasiment toutes les semaines. Là, on a été mis en difficulté parce que l'État a fait 2 versements alors qu'il devait en faire qu'un seul. Donc, on espère que l'État fasse le versement le plus rapidement possible, qui évitera cette cessation de paiement, et je suis convaincu que ça sera évité. Mais on doit justement avoir cette discussion avec l'État pour éviter ce goutte-à-goutte permanent qui met en stress tout le monde et qui est totalement inutile parce qu'au final, on trouve toujours des solutions au bout.
Et le vice-président du gouvernement accuse l'État de ne pas avoir respecté ses engagements.
Il y avait des engagements en début d'année de la mission interministérielle qui disaient qu'il n'y avait pas de contrepartie au prêt et on travaillait sur le contrat de désendettement. En cours d'année, il y a des contreparties qui sont apparues et donc l'État a fait un versement en 2 fois qui fait qu'on se met en tension de trésorerie. Ça va être résolu, tout avance bien, les relations s'apaisent et je suis convaincu qu'on sera en capacité de trouver des solutions prochainement.
On va trouver les 13 milliards d'ici la fin du mois.
Oui, mais ils existent en plus. Ensuite, il y a un vrai sujet sur l'année prochaine. Pour finir la fin de l'année, où il nous manque là aussi des liquidités et pour commencer l'année, mais le gouvernement est à la tâche pour trouver tout ça.
En compagnie du président du gouvernement, des représentants du Congrès et des formations politiques, Christopher Gigès participera à la mission transpartisane qui partira à Paris dans quelques semaines pour avoir des entretiens au plus haut niveau de l'État avec un message à faire passer.
Il faut vraiment que l'État arrête de croire qu'on ne fait pas de réforme. Vraiment, c'est un message qu'on souhaite faire passer parce qu'on a baissé les retraites de la fonction publique. C'est quelque chose qui est compliqué. On a mis le jour de carence au premier jour. L'assiette de répartition est passée de 115 à 100 milliards, donc 15 milliards d'économies. Les Calédoniens ont subi des hausses du prix de l'électricité. Je pense que si ces réformes-là avaient été présentées en métropole, il y aurait eu des émeutes. Il y a des gouvernements qui sont tombés en métropole parce qu'ils ont supprimé des jours de congé. Ils sont revenus sur la réforme des retraites. Nous, on a déposé une réforme des retraites qui allonge la durée des annuités en pleine période électorale. Donc, il faut que l'État comprenne qu'on veut réformer, mais par contre, qu'on surtaxera pas les Calédoniens, qu'on mettra pas de la pression fiscale supplémentaire sur les Calédoniens et qu'on sera pas dans une volonté de cadenassage de l'économie calédonienne.
Et parmi les réformes urgentes que le gouvernement veut mettre en œuvre, la simplification de la fiscalité. Le président du gouvernement en parlera dans sa déclaration de politique générale, mais Christopher Gigès affirme que le principe sera celui d'une assiette la plus large possible, avec un taux le plus bas
possible. Une interview du président du gouvernement à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera également rediffusée ce soir dans son intégralité juste après notre édition de 17h45. En bref, toujours pas de reprise pour le Betil Show malgré les interventions réalisées hier sur son groupe électrogène. Les réparations n'ont pas permis de rétablir les conditions nécessaires à la navigation. Après la rotation d'hier, c'est donc celle d'aujourd'hui qui est annulée. Les équipes techniques poursuivent les réparations pour permettre une reprise dans les meilleurs délais, peut-on lire sur la page Facebook du Betil Show. Les passagers concernés pourront demander le remboursement de leurs billets à partir de demain un matin à Marais et Lifou et dès 14h à Nouméa. Un record de participation sur la calédonienne d'Imbéa Mall. Cette manifestation populaire se déroulait ce matin au départ du parc Fayard. Plus de 800 participantes étaient engagées, Michael Juneski.
Oui, un rendez-vous pour promouvoir les activités physiques et sportives en plein air, au féminin, et pour soutenir l'association des petits pansements du cœur. Ce sont très exactement 884 participantes qui étaient de la partie pour s'élancer sur des randonnées de 6 ou 10 km, sans oublier les animations telles que la Zumba. Les coureuses, toutes vêtues de rose, étaient heureuses d'être au rendez-vous.
Bah, le plaisir de marcher et puis participer à la bonne cause.
Bah, reprendre le trail un peu.
Pour l'association déjà et pour la bonne ambiance, voilà, pour la marche, voilà, pour toutes les femmes.
Ça prouve qu'on est encore en forme.
Ça fait plaisir de participer à un événement comme ça. Enfin, voilà, on n'a pas l'habitude de faire du sport et puis bah, là pour une bonne. Enfin, c'est pour une bonne cause. Quoi.
Un élan de solidarité par rapport aux associations à qui on donne. Et en plus dans la bonne humeur, la joie, la bonne humeur et la sororité.
On connaît le président des petits pansements du cœur, donc c'est pour lui faire plaisir.
C'est mesdames qui font le parcours, du coup je les accompagne.
C'est une bonne cause, et voilà.
C'est mes collègues qui m'ont poussé à venir, du coup j'ai embarqué la famille avec.
J'aime bien la randonnée et puis voilà, partager un moment avec les sœurs.
Oui, moi c'est pareil, moi je viens de Conné, je retrouve mes copines de la bande de marche et en plus c'est pour une bonne cause, donc tout le plaisir est là.
Une partie de la somme gagnée aujourd'hui sera reversée en effet à l'association donc des petits pansements du cœur. La mairie de Dimbéa soutient également cet événement avec la présence du maire Cynthia Jean et de plusieurs élus dans le cortège rose. Une opération mise en place par l'association Taratoni Cycle and Run. Il s'agissait de la deuxième édition de ce rendez-vous.
Autre action caritative ce week-end, le Secours catholique qui fait appel depuis hier à la générosité des Calédoniens afin de venir en aide aux plus démunis.
Hier, les bénévoles collectaient des denrées alimentaires ainsi que des produits d'hygiène à la sortie des magasins. Aujourd'hui, l'organisme organise sa quête à la sortie des messes dans toutes les paroisses du territoire. Une action importante selon Elisabeth, bénévole au Secours catholique.
Venir en aide aux personnes démunies qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses. C'est une action très importante et qui permet en tant que chrétien de montrer notre solidarité envers tous ceux qui sont dans le besoin. Et donc c'est un petit geste qui compte et qui est mené à la fin de chaque messe durant tout le week-end dans les paroisses du Grand Nouméa et celles de la Grande Terre et des îles qui pourront l'organiser également.
Déjà les premiers ressentis pour la collecte de denrées qui était proposée hier.
Oui, les ressentis sont très positifs. Les gens disent, ben, je ne peux pas grand-chose mais je fais quand même. Et c'est ce qui compte montrer qu'on fait chacun avec les moyens dont on dispose.
Et ce matin, en la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa, de nombreuses personnes étaient heureuses de pouvoir apporter leur contribution à cette opération.
C'est normal, hein, parce que les secours catholiques, s'ils ne sont pas là, mais les pauvres, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas... Voilà, c'est normal que c'est un geste.
Ah, bien sûr, on donne ce qu'on peut, hein, même tout don est précieux. Hein. Voilà, je suis contente d'avoir fait mon petit don.
Quand je peux, je donne ce que je peux, quoi. Ben voilà, c'est ce que j'ai fait, le petit geste, bon, j'espère pour moi.
Et comme chaque année, cette action du Secours catholique permettra de venir en aide aux familles dans le besoin. Près de 200 bénévoles sont mobilisés partout en Calédonie tout au long du week-end.
Il est à midi et 16 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal dans un instant. L'actualité en métropole et dans le monde.
Mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça?
Bah quoi, je me prépare pour la foire de Bouraille.
Mais c'est pas aujourd'hui.
Et alors, jamais trop tard que jamais, hein. En plus, c'est la 48e édition cette année. Il y aura du manger, puis du à boire, des expos agricoles, du rodéo, élection Miss Foire de Bouraille. Et le mister, ben, c'est moi, hein. Bon allez, mets ton chapeau, puis let's go.
La foire de Bouraille, c'est le 14, 15 et 16 août à l'hippodrome de Téné.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Week-end, on retrouve Lionel Sabot.
Un détenu en toute liberté ce week-end et en toute légalité. La nuit dernière, un détenu de Condé-sur-Sarthe, du quartier de lutte contre la criminalité organisée, a été autorisé à quitter sa cellule. Cet individu sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, est lié à la Mocromafia qui opère en Belgique et aux Pays-Bas. Condamné à 8 ans de prison pour avoir géré des réseaux de trafic de cocaïne et d'héroïne, il passe donc le week-end chez sa sœur à Mulhouse. Décision incompréhensible pour Alex Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police.
Encore une fois, on est surpris hein, de ces permissions qui sont autorisées à des individus qui sont du haut du spectre de la délinquance. Hein. Donc, on ne sait pas ce que va faire cette personne puisqu'elle est quand même connue pour du grand banditisme. En tous les cas, il est identifié étant dans une mafia. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'il est en liberté? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va en profiter pour donner des instructions, des ordres? Nous, ce qu'on constate malheureusement, que c'est dans ces prisons haute sécurité, on est en train de déconstruire finalement ces prisons-là. Ce qu'a mis en place le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, ne plaît pas apparemment à certains. Donc ils font tout pour casser, si vous voulez, ces prisons haute sécurité.
Axel Leroux, le président et porte-parole du syndicat CFTC Police. Plus de deux mois après la mort de la jeune Liana, l'affaire continue d'ébranler les systèmes policiers et judiciaires. Une lettre adressée la semaine dernière au ministre de l'Intérieur Laurent Nunez par le ministre de la Justice Gérald Darmanin fait état de profonds dysfonctionnements. Cela concerne notamment le traitement des plaintes en commissariat. Ce document pointe notamment une désorganisation totale des services d'enquête. Et puis dans l'actualité également. Cette information révélée ce matin par nos confrères d'Europe 1. L'interpellation il y a quelques heures à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne en région parisienne de deux individus à bord d'un véhicule de location. Originaire de Marseille, ils transportaient un fusil d'assaut avec munitions. L'un d'entre eux est parvenu à prendre la fuite. La France, on le sait, connaît une série de vagues de chaleur pour le moins exceptionnelles. Vagues de chaleur qui favorisent notamment les reprises de feu, on va y revenir dans un instant. Et face à ces incendies inédits et ces températures, de nombreuses collectes et cagnottes ont été lancées pour venir en aide aux personnes impactées par la canicule et les incendies. C'est le cas de la Fondation de France qui a déjà récolté un peu plus de 4 millions d'euros. Charles Bouchin pour Europe 1.
Cette cagnotte a été créée il y a moins de deux semaines au moment des incendies en Gironde. Immédiatement, les Français ont répondu présent. Une bonne surprise pour Alexandre Giraud, directeur de l'action philanthropique de la Fondation de France.
C'est une période qui est généralement pas forcément très active sur la question de la générosité. Et là, avec cette opération spéciale qui a été lancée dans le cadre de l'incendie en Gironde, on a vu un pic de générosité assez exceptionnel de la part des Français.
Les fonds récoltés sont directement reversés à des associations locales qui viennent en aide aux populations sinistrées, mais aussi aux acteurs de première ligne, comme les soignants et les pompiers. notamment.
Donc ça va être permettre d'avoir par exemple des lits picots, des espaces pour pouvoir dormir, des endroits où on peut distribuer des repas. Ça peut être aussi des actions où comment on appuie la Fédération nationale des sapeurs-pompiers pour leur fournir des capacités supplémentaires, des véhicules supplémentaires.
Face à la multiplication des vagues de chaleur et des incendies, la Fondation de France a décidé de laisser cette cagnotte ouverte sans échéance précise.
Et Charles Bouchain pour Europe 1. Conséquence de la sécheresse, la production de maïs tombe au plus bas depuis 1980. Une chute estimée à 35% par le gouvernement pour s'établir à 9 millions de tonnes. L'association de producteurs, des producteurs alerte, des producteurs qui s'attendent à la pire récolte du siècle. Laura Legault pour Europe 1.
Les rendements de producteurs de maïs n'ont jamais été aussi bas depuis une cinquantaine d'années. Et c'est tout le territoire national qui est concerné. Franck Laborde, président de l'Association française des producteurs de maïs.
La situation des producteurs de maïs, elle est catastrophique. La récolte sera au moins inférieure de 40% à une année normale. Certaines fermes vont perdre jusqu'à 80% de leur récolte en maïs.
Cette année, la récolte du maïs a commencé beaucoup plus tôt, avec un mois d'avance, pour tenter de sauver les cultures très abîmées après une succession de vagues de chaleur.
Les raisons des difficultés actuelles sont essentiellement liées à deux événements. Le premier, qui est des températures excessivement élevées, cumulées à un déficit de pluviométrie.
Conséquence, certains exploitants pourraient perdre jusqu'à 1500 euros par hectare. L'Association des producteurs de maïs en appelle donc au gouvernement pour aider les exploitations menacées de mettre la clé sous la porte avant la fin de l'année.
Autre conséquence de la chaleur qui s'installe de nouveau et de la sécheresse, le feu qui avait été stabilisé dans la Drôme a repris, a légèrement progressé ce matin, c'est ce qu'indiquait la préfecture de la Drôme. La surface brûlée est à présent de 320 hectares. Quant à l'incendie qui s'est déclaré hier en Lozère, il a été fixé après avoir parcouru une centaine d'hectares. Près de 120 pompiers ont été appuyés par deux canadaires et un Dash. Quelques mots de l'actualité à l'étranger. En bref, l'Etna a obligé l'aéroport de Catane en Sicile à suspendre durant plusieurs heures ses vols à l'arrivée. Le volcan est entré en éruption et a dégagé un nuage de fumée, mais également rejeté des cendres volcaniques dans l'atmosphère. L'Espagne passe à l'action. Madrid a commencé à effectuer des contrôles temporaires aux frontières, à ses ports et aéroports pour les voyageurs en provenance d'Italie. Une première journée d'application de sa réponse aux mesures similaires imposées par Rome après l'afflux de migrants de Ceuta. L'arrestation à Rotterdam d'un homme soupçonné de plusieurs attaques au couteau. Un peu plus tôt, cet individu âgé de 26 ans avait blessé deux personnes qu'il aurait agressées au hasard. L'une des victimes a dû être hospitalisée. Et puis Washington dénonce les agissements de Pékin en mer de Chine méridionale. La Chine cherche à imposer sa réserve naturelle nationale sur un récif et à priver les pêcheurs philippins de l'accès à leur zone de pêche traditionnelle. Midi 24 minutes, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, nous parlons sport.
Votre tranquillité d'esprit avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Avec Canal+, laissez-vous tenter par les formules premium à petit prix. Jusqu'au 31 octobre, vos chaînes et plateformes préférées sont au tarif unique de 5000 francs par mois pendant 2 ans. Canal+, HBO Max, OCS, Apple TV+, Paramount+, et toute la Ligue des Champions, le Top 14 et la Formule 1. Où vous voulez, grâce à votre application Canal+, pour seulement 5000 francs par mois pendant 2 ans. Jusqu'au 31 octobre pour tout nouvel abonnement de 24 mois. Modalité au 26 53 30 en Canal+ Store ou sur canalplus-calédonie.com.
RRB pour être au cœur de l'actualité.
L'actu sport, on retrouve Lionel Sabot.
Et on va parler cyclisme avec la suite du Tour de France dames et la lutte qui sera serrée jusqu'au bout sur cette édition 2026. La néerlandaise Demi Vollering a frappé très fort sur l'avant-dernière étape de 172 km jusqu'à Nice. Elle s'est imposée et elle a également repris le maillot jaune de leader avec 8 secondes d'avance sur la polonaise Katarzyna Niemanowa après un bel effort.
In a stage race, you lift quand on fait une course en étape, chaque jour compte. On peut être triste un soir, mais le lendemain, il faut mettre un nouveau masque et y aller. Et franchement, j'ai cavalé, j'ai souffert. C'était vraiment une douleur immense.
Et côté tricolore, la gagnante de l'édition 2025, Pauline Ferrand-Prévot, a finalement jeté l'éponge. La meilleure française reste Cédrine Kerbaol. Elle, pour sa part, sixième. L'ultime étape pourra encore réserver des surprises ce soir. Tour de France Dames qui s'achèvera avec un dernier parcours de 99 km dans la ville de Nice. En MotoGP, Jorge Martin a signé la pole position en vue de la course principale du Grand Prix d'Angleterre. L'Espagnol s'est également imposé sur la sprint race. Côté français, Fabio Quartararo s'est classé 14e de la course sprint après avoir signé le 13e temps des qualifications. La course principale sera à suivre ce soir à partir de 23h, heure de Nouméa. Du football, et on jouait ce matin la première journée du championnat de France de Ligue 2. 9 matchs étaient au programme. Je vous donne les résultats. Boulogne-sur-Mer et Nancy ont fait match nul 0-0. Clermont et Reims ont également fait match nul 0 partout. Dunkerque s'est imposé 4-2 sur Grenoble. Metz et Guingamp, c'est Metz qui s'est imposé 2-1 sur Guingamp. Montpellier et Dijon ont fait match nul 1-1 partout. Nantes s'est incliné à domicile à la Beaujoire 1-0 devant le Red Star. Annecy est allé l'emporter 1-0 sur la pelouse de Pau. Rodez s'est imposé 3-1 sur Laval. Et puis Saint-Etienne est allé s'imposer 3-0 sur la pelouse du Stade Bonal à Sochaux. Les Sochaliens qui font leur retour dans l'antichambre de la Ligue 1 après plusieurs années dans les bas-fonds du classement de National que l'on appelle désormais la Ligue 3. Allez, le sport côté calédonien, hors du territoire. Tout d'abord, la sélection masculine de volleyball s'est qualifiée pour la finale des Océania. Michael Juneski.
Oui, une victoire hier sur Wallis et Futuna dans le dernier carré, synonyme de billet pour aller jouer les Jeux du Pacifique. En effet, seuls les deux finalistes du tournoi de Guam pouvaient d'ores et déjà décrocher leur place directe pour Tahiti 2027. Les Calédoniens l'ont donc emporté contre Wallis et Futuna en demi-finale 3-7-2. Ils devront encore affronter l'Australie en finale ce dimanche. Écoutez le président de la Ligue et joueur de la sélection masculine, Moïse Kalemo.
Très content du résultat. Un match avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'énergie. Satisfaisant parce qu'on a notre ticket pour les garçons, pour Tahiti. On a renversé la tendance, mener 2-7-0 et revenir à 2-7 partout et gagner le tie-break montre que voilà, les garçons ont des ressources physiques et technique pour revenir et gagner ce tie-break. Une finale à aller chercher, une finale contre l'Australie, une grande nation, une grande équipe, mais à notre portée.
Les Calédoniens qui retrouveront donc les Australiens. L'Australie qui a disposé de Guam sur le score de 3-7-0. Coup d'envoi de cette finale des Océaniens de volley à ce soir à 22h15, heure de Nouméa.
Sur le territoire à présent du cyclisme et les championnats de Calédonie sur route qui ont livré leur verdict au Mont d'Or, Léo Fichouf.
Oui, au lendemain de la victoire de Ryan Lachnis sur le contre-la-montre à Plum pour 1 minute 17 d'avance, je le rappelle, sur Florian Barquette. Cette fois, c'est le second qui s'est imposé sur la course en ligne avec 5 tours du Mont d'Or. Les deux coureurs sont restés au contact et Florian Barquette du VCC Mont d'Or l'a emporté avec 19 secondes d'avance sur Ryan Lachny de l'équipe Sport Pro. Écoutez le vainqueur.
C'est plusieurs années, j'ai gagné pas mal de courses et je savais bien quand Ryan allait revenir. C'est un coureur qui est très très fort. Il a quitté la métropole il y a 2 ans, moi ça fait 8 ans et on sait bien tout à quel point c'est un bon coureur. Je sprint, je sais que j'ai bien emmené, j'ai monté debout dès le pied sur un rythme où je savais que je pouvais faire un sprint court. Et quand je vois qu'il se rassoit et qu'il s'écarte, je me dis non, il a eu un truc. En fait, non, il était sec, il avait plus de jambes, mais c'est une course longue. 110 bornes, 120 bornes. Je sais que j'ai pas mal de volume et j'ai fait un beau chrono hier déjà. J'en ai gagné beaucoup des courses, mais à chaque fois, je me dis, ouais, sans souci mécanique, je gagne. Et voilà, j'y croyais toujours parce que je suis un compétiteur et je me dis, tant que la ligne n'est pas franchie, faut y aller. Et beaucoup de joie, mais voilà, bravo Ryan.
On signalera que c'est Tchad Charré de l'ECV qui a terminé troisième de cette course. Chez les féminines, la victoire est revenue encore une fois à Louise Chavitz, celle qui est revenue de métropole pour des vacances après avoir intégré un pôle espoir de cyclisme national. Elle a décroché donc les deux titres territoriaux du week-end. Elle s'est imposée devant Mélanie Allier et Céline Hirzel pour un triplé de l'ECV dans cette course. La réaction de la vainqueur, Louise Chavitz.
J'avais un peu peur de la distance quand même. Je fais rarement ça, donc ça fait un an que je n'avais pas couru sur route, donc contente quand même. Surtout qu'il y a les Jeux du Pacifique l'année prochaine et c'est pas forcément un objectif pour moi, mais si je peux y aller, ce sera toujours ça de prix, donc voilà, contente. Vu que la course était assez longue quand même, c'est toujours mieux d'être groupée parce que faire 90 bandes toute seule, faut le faire quand même. Donc on a préféré rester à 4 et après, à la fin de la dernière bosse, la plus forte et qui gagne, et voilà, bah, c'est comme ça.
À noter que pas moins d'une soixantaine de coureuses et coureurs constituaient le peloton ce week-end sur ces championnats de Calédonie de cyclisme.
Encore quelques mots de sport en Calédonie avec la cinquième réunion hippique de la saison qui a débuté sur l'hippodrome Henri Millard. On rappelle que la course phare de cette journée sera la Clark Warm-up, c'est-à-dire la répétition générale en vue de la Casino Coupe Clark qui se déroulera dans 15 jours. Les meilleurs chevaux du territoire seront au départ sur cette classique de 1600 mètres à 15h35. Et puis, il y a aussi du football avec la fin des quarts de finale de la Coupe de Calédonie et notamment un choc cet après-midi. Le SI Horizon Sport à partir de 16h, ce sera au stade Numadele. Il est midi et 31 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il sera disponible d'ici quelques instants en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc. Bon dimanche sur Radio Rythme Bleu, je vous retrouve à 13h pour d'autres infos.